vacances, je ne sais pas. Donc on espère que vous passez un bon temps et que Dieu va vous bénir durant ce temps. J'aimerais prier et puis je ferai quelques annonces tout à l'heure. Merci Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir être ici, de pouvoir se réunir en ton nom. Quand on regarde autour de nous, souvent même pas très loin, dans les pays voisins, on sait à quel point nous sommes privilégiés de pouvoir nous réunir librement, de croire librement, de prier, chanter librement. Merci Seigneur pour ce privilège, nous voulons l'utiliser avec reconnaissance ce matin, te dire combien nous t'aimons et combien tu comptes pour nous. Nous voulons t'adorer, nous voulons aussi écouter ta voix au travers de ce qui va être dit et de ce qui va être vécu ce matin. Merci de bénir chacun, chacune ici présent, de bénir aussi ceux qui sont au loin, peut-être en vacances ou à la maison. Merci parce que tu veilles sur chacun de nous dans la multitude de nos circonstances tellement différentes. Amen.
Amen.
Voilà, je vous rappelle juste que mardi à 20h15, il y aura la rencontre de prière communautaire. Et puis nous avons choisi de mettre un thème pour cette rencontre. Et le thème, ça sera l'enfance et la jeunesse. Donc voilà, venez nombreux prier pour nos enfants, pour nos jeunes. C'est important, il y a des défis. Mais voilà, on va se concentrer là-dessus ce mardi. Dimanche prochain, comme d'habitude, culte à 10h avec Philippe Anchaud. On va continuer la série sur le serment sur la montagne. Et puis à 17h, espace louange à la chapelle avec David Jeunecamp à 17h, j'ai déjà dit, hein, je crois. 18h, merci. Je note ça, parce que je crois que dans mes notes j'ai 17h. Donc pas que je refasse l'erreur à chaque fois. Ok, 18h, merci. Vous le savez normalement, parce qu'on vous l'a martelé, le 8 mars, il y a... Le goûter de princesse, bon, ça peut être facile si c'est Rebecca qui répond. Hein. Donc le goûter des princesses, je ne vais pas vous redire à quelle heure et pour quel âge, etc. Mais je vais vous demander de prier pour cet événement. On est très réjouis, il y a 24 inscrites, ça change tout le temps, c'est la bonne nouvelle. Et il y en aura encore, donc c'est bien plus que ce qu'on avait eu la dernière fois. Et je vous demande de prier pour cet événement parce que le but, ce n'est pas que ces petites princesses passent juste une bonne journée. Oui, on veut aussi qu'elles passent une bonne journée, mais on veut surtout que leur vie soit touchée par Dieu, qu'elles comprennent quelque chose de la valeur qu'elles ont aux yeux de Dieu. C'est aussi pour ça qu'on fait ces journées. Alors on le fait au travers de toutes sortes d'activités qui leur font du bien, qui leur plaisent. Mais voilà, le but derrière ça est bien plus grand que les apparences. Donc priez vraiment pour ça, priez pour qu'il y ait encore des petites princesses qui s'inscrivent et puis qu'elles puissent vraiment vivre quelque chose qui les touche profondément durant cette journée, que ça les impacte et puis que ça soit quelque chose qui reste pour leur vie. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans l'actu Mérin, nous avons la chance d'avoir Anthony Perrot avec nous. Je vous le présente un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je ne le connaissais pas bien. On s'est, je ne sais pas si je peux dire croisé, je l'ai vu parce que je suis la formation de la FRE en ce moment, avec Annick aussi. Et donc, il nous a enseigné un soir en visioconférence. Mais Anthony est professeur d'hébreu et d'Ancien Testament à la FLTE. Alors, combien de personnes connaissent la FLTE ? Levez la main. Ah, bon. Eh bien, on a bien fait de planifier une petite présentation tout à l'heure. Anthony nous en parlera un petit peu plus. Donc la FLTE, c'est la Faculté Libre de Théologie Évangélique. Si j'avais. Je l'ai aussi appris très récemment. Oh, il vous dira tout ça. Je vais pas faire la présentation avant la présentation. Voilà, Anthony, après un ministère pastoral dans la FRE, que nous connaissons bien, associé à une charge de cours à la HET Pro à Saint-Légier, peut-être qu'on connaît un peu mieux aussi, a décidé de poursuivre son ministère à la FLTE. Il rédige actuellement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, hein, j'espère que c'est à jour sur le site, mais tu nous en diras plus si jamais tout à l'heure, une thèse sur les manuscrits de la Mer Morte à l'effet, Alors là non plus, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû faire quelques recherches dans ma préparation. Donc là, ça, c'est l'école pratique des hautes études. Voilà. Il est aussi membre de l'équipe internationale du projet Scripta Qumranica Electronica. J'ai dû l'écrire. Et du laboratoire archéologie et philologie. C'est dur à dire sans se tromper. Hein. Là aussi, j'ai dû me dire, qu'est-ce que c'est la philologie ? Est-ce que quelqu'un sait ? Ça travaille ce matin. Hein. Vous pensiez venir là tranquille. Donc voilà, philologie, j'ai pas fini ma phrase, d'Orient et d'Occident. La philologie, c'est l'étude historique d'une langue, par l'analyse critique des textes. Voilà. On est content qu'il y ait des gens qui étudient ce genre de choses pour nous. Hein. Il est marié à Nathalie et ils ont 2 enfants, 3 en ce moment, hein, car ils viennent d'accueillir un enfant de 10 mois. C'est la raison pour laquelle Nathalie n'est pas avec nous ce matin, hein, d'ailleurs, je crois. Voilà. Mais il nous présentera tout à l'heure maintenant la FLTE et puis nous dirons peut-être un petit peu plus sur ce qu'il fait. En tout cas, Anthony, je te laisse nous rejoindre et bienvenue. Très content que tu sois là. Je me réjouis d'entendre ce que tu as préparé pour nous.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous m'entendez bien, je pense. Je m'entends bien, donc vous devez bien m'entendre. Merci pour votre accueil. Merci Thierry. Merci pour de m'accorder un temps dans votre culte. Donc j'enseigne en effet l'hébreu et l'Ancien Testament. Alors à la FLTE, où est-ce que c'est la FLTE ? Bah, c'est pas en Suisse, c'est en France, c'est près de la région parisienne, à 50 minutes de Paris. Donc notre mission, voilà, c'est de former des responsables pour l'Église et la mission. Donc on n'est pas en concurrence avec la HET Pro que vous connaissez peut-être à Saint-Ligier ici. On fonctionne ensemble, en collaboration, en région parisienne. On peut peut-être aller à la slide suivante, et encore ensuite. Donc voilà, l'ADN de notre faculté, donc on est sur un modèle de faculté, pas de modèle de haute école spécialisée comme la HET Pro. Donc c'est vraiment la licence, le master et le doctorat. Donc on est typiquement évangélique, hein, comme vous êtes ici dans une église évangélique. On essaye de former à l'excellence académique, c'est-à-dire qu'on forme à tous les niveaux universitaires, que ce soit le bachelor, le master ou le doctorat. Et une de nos spécificités, contrairement par exemple à d'autres institutions, c'est d'être interdénominationnel. Donc ça aussi encore un gros mot, où on dit des fois, nous on aime dire en interne, panévangélique. Qu'est-ce que ça veut dire panévangélique ? C'est-à-dire qu'on veut s'adresser à toutes les composantes et tous les différents milieux du monde évangélique, avec toutes les sensibilités, qu'on soit charismatique, non charismatique, que l'on soit frère, que l'on soit, peu importe le type d'église évangélique auquel on s'adresse, on veut s'adresser à toutes ces églises. Alors on est en France et donc près de Paris depuis 60 ans, en fait nos 60 ans cette année. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, en fait, la faculté son origine, c'est, disons, les églises qui ont voulu, à un moment donné, se doter de ministres et de cadres et de pouvoir former ces ministres du culte, mais aussi, mais pas que, hein, on forme la moitié environ de personnes qu'on appelle laïques, des gens qui ne vont pas devenir pasteurs, et la moitié, ça va être des gens qui vont avoir un ministère chrétien, que ça soit en Suisse, on a quelques Suisses, en France ou alors de par le monde tout entier. Donc la moitié de gens qui se destinent à un ministère, pastoral ou non, et la moitié des étudiants, ce sont des gens qui veulent approfondir leurs connaissances, en savoir davantage sur la Bible. On peut passer à la prochaine slide, je vais essayer d'être court. Donc voilà, on a un enseignant par... qui est, on va dire, titulaire de la chaire. Donc moi je m'occupe de l'Ancien Testament et de l'Hébreu, mais j'ai un autre collègue qui fait le Nouveau Testament et le Grec. Bref, on a un responsable par grand domaine de la théologie. Voilà, on essaye de faire appel aussi à d'autres compétences, à des chargés de cours. Donc on a 7 professeurs permanents, où on est engagé à temps plein. Des fois on me dit, mais tu fais quoi le reste du temps ? Ben en fait, je fais que ça. C'est-à-dire, je ne fais qu'enseigner et faire de la recherche et corriger des copies. Et j'ai déjà de quoi faire et occuper mon temps. Ne vous inquiétez pas pour moi. On essaye ensuite d'avoir une communauté vivante et spirituelle. On vit 2 cultes par semaine à la fac, hein, le mardi et le jeudi, pendant une heure, nos étudiants se retrouvent pour vivre un culte un peu à la manière de ce qu'on vit là, où les étudiants s'exercent aussi à la prédication, à comment, comment vivre une scène, par exemple, hein, à tout un tas de facettes du culte. Eh bien, on vit ça aussi en tant que corps spirituel à la faculté de Vaux-sur-Seine. On peut passer à la prochaine slide. Alors, on a trois modes d'enseignement. Aujourd'hui, vous savez, on se diversifie tous, hein, on est obligé de... on a un culte en présentiel, mais on a un culte aussi en ligne avec des gens qui nous suivent en ligne. Eh bien, nous aussi, on a développé ce genre de formation-là. On a une formation en résidentiel. C'est le... La plupart de nos étudiants, une bonne partie de nos étudiants vivent ça, avec un certificat sur une année, un bachelor, un master, un doctorat. Ça, c'est la formation classique. On a aussi toute une formation à distance, avec des cours en e-learning qui, depuis 2-3 ans, nos effectifs ne font que de quasiment doubler d'année en année. Donc on prend une année, on en a 20, une autre année 40, après 80, et cette année on a environ 160 inscriptions pour l'e-learning. Donc c'est un mode de formation qui est très en vogue, où depuis son ordinateur, on peut suivre des cours, j'espère, de qualité, et lire des choses, suivre un parcours, valider des crédits pour ceux qui veulent, ou alors vivre ça vraiment tranquillement depuis chez soi. Les cours en direct et l'enseignement à distance, j'en dis rien. Et enfin, on a une formation qu'on appelle en cours d'emploi. En ce moment même, pendant que je vous parle, il y a des gens qui décident de, des Français et des Suisses, là encore, de suivre ce qu'on appelle la formation intensive. La formation intensive, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 fois 15 jours dans l'année, en février et en juillet, pendant les vacances scolaires. Des grandes journées intenses, du matin 9h à la fin de la journée 17h. Des étudiants sur place à la FLTE suivent des cours. Ou alors, en ligne, suivent des cours de la formation en ligne. Là, par exemple, j'ai ma belle-sœur qui est à l'église évangélique de l'Espérance, hein, pas très loin. Eh bien, elle suit les cours de la FLTE, de la formation intensive, depuis son ordinateur, depuis Genève. Elle suit en même temps les cours de la formation intensive. Bref, je ne vais pas vous trop en dire sur tout ça. Je me tiendrai à la fin du culte aussi dans l'espace là-bas pour échanger avec vous si vous avez des questions en lien avec notre offre de formation. Mais l'idée, voilà, c'est aussi, on peut passer peut-être à la prochaine slide. Vous avez tous les renseignements sur un site, c'est très simple, c'est flte.fr, faculté libre de théologie évangélique .fr. Et on peut encore passer à la prochaine slide. Il y a deux ans, surtout en ce qui vous concerne, deux manières de pouvoir penser à nous. Penser à nous par la prière, on forme des étudiants pour devenir pasteur, hein, je l'ai dit, pour la moitié d'entre eux. Mais ne serait-ce qu'en France, on estime qu'il faudra environ 1000 pasteurs pour les 10 prochaines années pour renouveler le corps pastoral en France. Et je pense que ce que je dis là, je pourrais trouver des chiffres comparables à ceux de la Suisse. Je pense que la situation est à peu près la même. Donc on a besoin de former dans toute la France 100 pasteurs par an pour les 10 prochaines années pour renouveler le corps pastoral qui va partir à la retraite et pour répondre aux besoins des implantations d'églises. Donc priez pour que des ouvriers se lèvent, hein, pour aller dans la moisson du Seigneur. On en a besoin. En fait, on en a besoin. Vous en avez besoin. Parce que on en a besoin pour nos églises, pour que le corps du Christ soit édifié, continue à être formé, édifié. Donc on peut prier pour de nouvelles vocations pastorales et plus largement, ou que des chrétiens aussi dans nos églises se forment pour la prédication, pour l'exercice des différents ministères. On peut prier pour nos étudiants. On a une centaine d'étudiants en résidentiel qui se forment. Et donc, ils ont... Pardon, je suis un petit peu malade. Ils ont besoin d'être équipés, d'être renouvelés dans leurs études. Et enfin, on commence cette année un grand projet de rénovation, et d'agrandissement de notre campus, parce qu'on est un peu à l'étroit, en fait. Nos classes se remplissent, etc. Mais on est un petit peu à l'étroit. Donc, on a décidé pour ça de construire une sorte de un nouveau bâtiment à travers une bibliothèque pour pouvoir créer de l'espace. Et donc, vous pouvez prier pour nous parce que les travaux commencent au mois de juin. Et donc, c'est un grand défi, c'est un défi à bien des égards. Tout d'abord, je dirais un grand défi financier parce qu'on a décidé d'entamer les travaux alors qu'on a la moitié de l'argent dans les caisses seulement. Mais on y va aussi en se disant que le Seigneur va pourvoir. Mais vous pouvez bien penser à nous, bien prier pour nous, pour ce projet d'agrandissement et pour nos étudiants. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour ma présentation et on se retrouve dans quelques instants.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Alors, les deux premiers chants sont assez nouveaux et si vous avez un peu de peine, c'est normal. Cela vaut la peine de persévérer car ce sont de beaux chants. Le premier chant, « J'aimerais au mon Dieu » exprime toute la joie que nous avons à chanter les louanges du Seigneur, à écouter la parole de celui qui a tout créé, ce Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous consoler et nous sauver. Combien je suis heureux. Alléluia. Ah, alléluia. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui a engendré tout ce que tu as voulu s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console. Et me dit, c'est ici le chemin du salut. Alléluia. Ah, alléluia. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi un refrain mélodieux. Avec la liberté d'un enfant face au Père et l'étrange frayeur d'un pécheur devant Dieu. Alléluia. Ah, alléluia. Heureux lorsqu'attaqué par qui voudrait ma chute, prenons la croix pour âme et l'agneau pour sauveur. Je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur et tout meurtri, mais vainqueur.
Alléluia. Ah, alléluia.
Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père. Pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut prendre l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du bonheur près du Dieu trois fois saint.
Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Ah, alléluia.
Je lis dans Apocalypse 4:11, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Alléluia à notre Dieu. trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Dignes-tu, ô notre Dieu? Majesté infinie, beauté sans égal, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Dignes-tu, ô notre Dieu?
Alléluia.
Alléluia.
Prosterné devant lui, d'un même chant proclame. Dignes-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Dignes-tu, agneau de Dieu, Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Alléluia.
Honneur et gloire.
Honneur et gloire. Règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance. Force et louange à notre Dieu, à notre Dieu.
Alléluia.
Alléluia.
À notre Dieu. Je lis dans Jean 15, 9, 10. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. L'importance d'obéir au Seigneur et de le suivre, c'est ce que n'avait pas compris Jonas au début, jusqu'à ce qu'il soit avalé par le gros poisson. Jésus, je te suivrai. La joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de Jésus, je te suivrai
car tu es mort pour moi. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant en ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix sans le fond. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces chants que nous avons chantés. Merci pour cette communauté. Nous te prions maintenant, Seigneur, de nous instruire par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous voulons maintenant ouvrir nos cœurs, notre esprit, notre entendement, pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses peut-être nous faire changer de voie. Nous te prions, Seigneur, de venir en nous, par ton esprit, faire le travail nécessaire. Et nous voulons te dire notre disponibilité pour cela. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Colombe. Non, je ne m'appelle pas Anthony Perrault, mais je m'appelle Colombe. Et je suis fils de la vérité. Et si je suis là aujourd'hui avec vous à Mérin, c'est pour vous raconter toute la vérité me concernant. Comment ça, vous ne me connaissez pas? Mais si, je suis sûr que si. Allez, essayez de deviner. Je suis un personnage fameux de la Bible et mon histoire fait partie des fameux récits de tempête. Alors non, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Noé. Mais on vous a glissé déjà un indice. Je m'appelle Jonas, fils d'Amitai, et mon nom, en fait, signifie Colombe. Colombe, fils de la vérité. Alors, entre nous, vous pouvez m'appeler Jonas, il n'y a aucun souci, mais vous verrez que le sens de mon nom n'est pas un détail. Et si je suis là aujourd'hui, avec vous, c'est pour rétablir la vérité me concernant. Eh bien oui, logique, je suis fils de la vérité. Oui, rétablir la vérité parce que j'entends dire bien des choses à mon sujet. Tout d'abord, certains se déchirent, sur l'historicité de mon récit. D'autres encore disent que la prière que j'ai prononcée dans le ventre du grand poisson, au chapitre 2, a été ajoutée après coup à mon histoire. Et bref, avec tous ces débats, toutes ces grandes questions autour de mon histoire, j'ai comme l'impression qu'on est passé à côté du sens même de mon message, de toute mon histoire. Et étant donné que je suis là pour rétablir la vérité, j'aimerais revenir sur mon histoire. Et cette histoire est là pour vous aider, vous, à vous aujourd'hui, parce que je n'aimerais surtout pas que vous commettiez les mêmes erreurs que j'ai commises dans le passé. Alors, si vous le permettez, j'aimerais vous inviter à écouter le premier chapitre du livre qui raconte mon histoire. La lecture se fera dans la Nouvelle Bible Second, livre de Jonas, le livre qui porte mon nom, chapitre 1. Jonas, chapitre 1, et je lis. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai, c'est moi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Verset 4. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Chacun d'eux cria vers son Dieu et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu donc à dormir ? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparissions pas ?» Ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas, tomba sur moi. Alors ils lui dirent « Explique-nous s'il te plaît qui nous attire ce malheur. Quelle est ton activité ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur, ils lui dirent « Qu'as-tu fait là ?» Ils savaient en effet qu'ils fuyaient pour échapper au Seigneur, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit « Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent le Seigneur, Yahweh, et ils dirent « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui agis comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur, et ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Ainsi s'achève notre histoire. Et à chaque fois que je la relis, cette histoire, mon histoire, je suis tout retourné. C'est terrible, c'est comme si c'était hier. Et pourtant mon histoire remonte au 8e siècle avant notre ère, alors que j'étais prophète en Israël, sous le règne d'un certain Jéroboam II. C'est ça mon histoire, eh bien elle ne le dit pas, vous ne l'avez pas entendu, mais on le sait grâce au 2e livre des Rois, au chapitre 14 et au verset 25. Pour vous le dire vite, Jéroboam n'était vraiment pas un bon roi, il n'y en avait pas beaucoup de bons rois en cette époque, alors que moi, j'étais vraiment un bon prophète. Enfin ça, c'est ce que je croyais. J'étais plutôt le genre de prophète, vous voyez, vraiment bien droit dans ses bottes, qui ne dévie ni à gauche, ni à droite. Et oui, je vous l'ai dit, j'étais un descendant direct de Monsieur Vérité. Côté job, je pense que je peux dire que j'avais une bonne situation, mais j'étais surtout très privilégié. J'étais prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu, porte-parole de Yahweh, le seul vrai Dieu d'Israël. Mes collègues estimaient que j'étais vraiment bon dans ce que je faisais. Je me donnais à fond, je comptais pas mes heures. En tout cas, je ne voulais surtout pas être comme certains. Certains de mes collègues qu'on appelle les faux prophètes. C'est le genre de prophètes, vous les connaissez, qui annoncent quelque chose et qui, in fine, ne se réalisent pas. Vous voyez le genre ? Eh bien, ça, ce n'était pas possible pour moi. Et voilà qu'un jour, Yahweh, le Seigneur Dieu, s'adresse à moi comme il avait l'habitude de le faire, il l'avait fait par le passé. Et là, il me demande d'aller prophétiser contre Ninive. Non mais Ninive, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour moi ? Pour un Israélite du 8e siècle, d'aller prêcher à Ninive ? Ninive, la grande Ninive ? En fait, j'avais plus de mille raisons de fuir. Pardon. Si les Ninivites n'étaient pas juifs, première raison, mais ça encore, on avait l'habitude d'aller prêcher contre des nations païennes, les Ninivites étaient surtout très méchants. Ça, le verset 2 le dit. Sérieusement, à l'époque, tout le monde avait peur des Ninivites. Deuxièmement, demander à Ninive de se repentir, c'était vachement risqué. Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, demander à Ninive de se repentir, c'était un coup à finir faux prophète, ça. Si on lit dans la loi, au Deutéronome chapitre 18, verset 22, on lit que quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Et ça, pour moi, bien, ce n'était absolument pas possible de prendre le risque de demander à Ninive de se repentir, parce qu'il y avait peu de chances que cela arrive. Et puis, troisièmement, surtout, je savais comment tout cela allait finir. Comme je le dis au chapitre 4 de mon histoire, au verset 2, je savais que Dieu serait un Dieu clément et compatissant, un Dieu patient et grand par sa fidélité et qui renonce au mal. Je savais que si la ville de Ninive se repentait, Dieu allait les pardonner. Eh bien ça, je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Ça peut vous paraître étrange, mais je n'arrivais pas à le supporter. Pour moi, la bonté de Dieu était tout simplement incompatible avec le fait que Dieu rende justice. Enfin ça, là aussi, c'est ce que je croyais. Lorsque l'Éternel s'est adressé à moi, je ne voyais qu'une seule possibilité, et ça je vous l'avais lu dans le texte que j'ai lu. La seule possibilité, c'était fuir. Et ça, le psaume 55, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le psaume 55, verset 7, le dit mieux que moi, et écoutez bien. Je me dis, ah, si j'avais des ailes comme la colombe, ou comme Jonas dans le texte hébreu, je m'envolerais et je trouverais une demeure. Je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai bien vite, je serai plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Fin de citation. J'étais donc déterminé à fuir. Fuir aussi loin que possible, fuir le plus loin possible, fuir à l'extrémité du monde connu, fuir le plus loin possible que l'on pouvait imaginer. À l'époque, c'était Tarsis. Alors moi, Jonas, moi, la colombe, je décide de prendre mes ailes à mon cou et je prends mon envol pour Tarsis. Mon envol, mon bel envol, vous allez voir. Enfin, mon envol. Là encore, c'est ce que je croyais. Le narrateur, celui qui raconte mon histoire, évoque plutôt l'idée d'une chute vertigineuse. Et il a raison. Si vous regardez de près le texte, et vous pourrez le reprendre à la maison, il est dit que je commence par descendre à Jaffa, verset 3. Puis après avoir trouvé un bateau, je descends dedans. Lorsque la tempête se présente, je descends au fond du navire. Lorsque les marins tirent au sort pour savoir qui leur attire ce malheur, le sort tombe sur moi. C'est alors que les marins me jettent par-dessus bord et que je descends au fond de la mer. Ce chapitre 1, vous l'avez compris, c'est bien l'histoire de ma chute. De ma chute au fond des enfers. Et cette histoire est d'autant plus saisissante lorsqu'on la compare à une autre action, à l'action de Dieu. Écoutez plutôt. Dieu m'avait dit « Lève-toi, va à Ninive », verset 2. Mais face à ma désobéissance, Dieu décide alors de faire lever un grand vent, verset 4. Les marins s'y mettent et lancent le chargement par-dessus bord. Le chef de bord a beau me dire de me lever pour invoquer Dieu, mais rien n'y fait. Alors, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme continue de faire monter la mer de plus en plus. Verset 11 et verset 13. Pardon. Et le seul moment où je suis littéralement élevé, élevé comme on élève un holocauste d'une offrande d'une colombe, par exemple, eh bien, c'est pour me jeter par-dessus bord. Verset 15. Alors que dans l'histoire de Noé, la colombe avait été lâchée pour voir si les eaux avaient diminué, moi, Jonas, moi, la colombe, eh bien, je suis jeté en pleine mer par le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Et autant vous dire que j'ai fini bien plus mouillé que Noé dans cette histoire. En somme, dans cette histoire, moi, je tombe, je descends jusqu'aux profondeurs de la terre, au cœur des mers, et tout se lève contre moi. Mais le narrateur, celui qui raconte mon histoire, ne s'arrête pas là. Parce que dans cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais tout est grand. Face à cette grande ville de Ninive, verset 1, face à ce grand vent, verset 4, face à la grande peur des marins, face à cette grande tempête du verset 12, et face à la grande crainte du Seigneur des marins, moi Jonas, moi la colombe, je parais petit, tout petit. Et le narrateur enfonce le clou. Si seulement j'avais réfléchi à la parole du Seigneur, si seulement j'avais considéré la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même le bateau pense littéralement à se briser. Il réfléchit à se briser. Mais moi, on me jette comme on jette le chargement d'un bateau pour l'alléger. Si seulement j'avais réfléchi. Cette histoire, c'est l'histoire de ma descente, de ma chute au plus profond des mers. Et je suis là, tout petit, insignifiant, partageant le sort de la marchandise qui coule à pic au fond de l'eau. Moi, Jonas, moi, la colombe, je suis élevé à un seul moment pour être jeté au fond de la mer. Le narrateur donne l'impression que je suis rien, un moins que rien. Et je pense qu'il a raison au fond. Mais le Seigneur, dans sa grâce, et sa grâce seule, m'a permis de faire des belles rencontres sur ce bateau, au chapitre 1. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler maintenant. J'ai rencontré des humains, des vrais. Des gens, c'est vrai, très différents de moi. Des marins. Mais des marins qui avaient soif de Dieu. Des marins qui cherchaient des réponses. Et c'est d'eux dont j'aimerais vous parler. Comme le narrateur le souligne, étrangement, ce sont les premiers dans cette histoire à craindre, à avoir peur de la tempête. Je les revois encore chacun crier vers leur Dieu, comme si c'était hier. Le bateau sur lequel nous étions était très lourd, un peu comme tous les bateaux à destination de Tarsis, en fait. Ça, vous pouvez le retrouver au chapitre 27 du livre d'Ézéchiel, mon collègue de l'époque, et qui le dit mieux que moi. Bref, notre bateau était rempli d'or, de bijoux et de toutes sortes de richesses. Et alors que la tempête se levait, les marins commençaient à jeter les cargaisons par-dessus bord. Si ce geste peut paraître anecdotique, étant donné la situation, en fait, il avait un grand sens pour eux. En réalité, en jetant de l'or et des bijoux à la mer, ils tentaient d'apaiser les dieux, la colère des trois dieux responsables de la tempête. Baal Shamen, Baal Mahalag et Baal Tsaphon. Ça, c'est pas le texte qui nous le dit, mais c'est le contexte de l'époque qui peut nous le dire. Alors que ces marins cherchaient des solutions en tentant d'apaiser la colère de leurs dieux, eh bien, pendant que ces marins se battaient avec la mer et leur dieu, moi je me cachais le plus loin possible de Dieu. Je dormais. Du coup, comme le dit un de vos prophètes contemporains, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Oui, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Je me rappelle que le capitaine du navire était lui-même venu me trouver, en me demandant d'invoquer mon Dieu. Mais j'étais resté là, silencieux, immobile. Après avoir fait tomber les sorts, ils étaient revenus nombreux cette fois pour m'adresser toute une série de questions. Ils cherchaient absolument à savoir qui nous a tiré ce malheur. Eh bien, bien que le sort m'avait désigné, ils avaient bien compris que quelque chose de plus se jouait là. Les dieux de la tempête étaient censés être apaisés. Le sort m'avait désigné, mais la tempête continuait. Ils me demandèrent ensuite quelle était ma mission. Et le mot qu'ils avaient employé à cette époque montre qu'ils avaient bien compris que j'étais un messager. Mais un messager de qui ? Un messager du mal qui entraînait cette tempête-là ? Alors il continuait de marceler de questions. D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? Et j'ai fini par craquer. J'ai fini par tout leur raconter. J'aurais dit que j'étais un prophète hébreu, que le Seigneur m'avait envoyé à Ninive, mais que j'avais fui pour Tarsis. À un moment donné, fallait que ça sorte. Les questions de ces marins, elles sont intéressantes et elles méritaient une réponse. Comment rester muet plus longtemps ? Ils subissaient le châtiment que je méritais. C'était moi qui attirais sur eux la tempête. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me sacrifier. Bon, entre nous, je savais que la mort était le seul moyen de sortir de cette histoire et d'échapper à Dieu. Alors autant me jeter à l'eau. Mais là encore, j'ai été impressionné, interpellé par les marins. Après leur avoir suggéré de me lancer à la mer, ils ont continué à ramer pendant des heures et des heures. En fait, j'étais saisi par leur volonté de s'en sortir, de sortir à tout prix de la tempête, de cette tempête qui faisait rage. Mais rien à faire. La mer se déchaînait toujours plus contre eux, contre nous. C'est comme si ce combat, en fait, finalement, c'était le leur et pas le mien. Et c'est alors que l'impensable se produisit. Et non, je ne parle pas du grand poisson, mais du fait que les marins invoquèrent le Seigneur. Non pas Baal Shamen, ni les autres dieux qu'ils avaient l'habitude d'adorer, mais ils invoquèrent Yahweh, le seul vrai Dieu d'Israël. Et ils dirent, « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. » Eh bien oui, les marins étaient face à un dilemme, périr par ma faute, la faute d'un homme coupable, ou se rendre coupable de la mort d'un homme. Et ils ont choisi la seconde option. Et franchement, je les comprends, hein, ce n'est pas moi qui vais leur jeter la pierre, il fallait que je sois jeté à l'eau pour que la mer se calme. Et c'est ce qui s'est passé. C'est alors que la crainte des marins s'est transformée en crainte de l'Éternel. Et en fait, contrairement aux apparences, ça c'est le grand miracle du début de mon histoire. La crainte des marins, la crainte de la tempête, s'est transformée en crainte de l'Éternel. Et cette rencontre avec les marins et la conversion de Ninive, plus tard dans mon histoire, m'a permis de réaliser un certain nombre de choses pour finir que j'aimerais vous partager à cœur ouvert ce matin. Je crois que les gens qui ne connaissent pas notre Seigneur vivent dans une véritable tempête. Une tempête dans laquelle leur vie est inquiétée, qu'ils s'en rendent compte ou non, jour après jour. Ces personnes ont leurs idoles et on ne va pas leur jeter la pierre. Elles ont leurs faux dieux et mettent tout en œuvre, parfois pour tenter de s'en sortir. Ils rament, ils mettent une énergie folle pour tenter de s'en sortir. Ces gens-là, autour de nous, ont des vraies questions. Des questions qui sont des questions difficiles et de véritables questions telles que la question de l'origine du mal. Pourquoi ? Qui est-ce qui nous attire ce mal ? Ou de comment calmer la tempête qui fait rage dans nos vies. Il faut alors prendre le temps, comme je l'ai fait, et c'est peut-être à l'époque la seule chose de bien que j'ai fait, prendre le temps d'entendre ces questions, et même de se laisser, en tant que prophète de l'Éternel, se laisser interpeller par les questions de l'autre. Croire que nous aussi, on peut grandir à travers la question de l'autre. Et là, il ne faut surtout pas croire que parce que je suis prophète de l'Éternel, que je suis meilleur qu'eux. Non, parce que c'est par la grande œuvre de salut que le Christ a opéré que nous sommes chrétiens, pas par nos mérites, pas par nos efforts. C'est, comme le dit une épître, c'est parce que le Christ s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, qu'il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant, jusqu'à la mort sur la croix. Alors face à la question de l'autre, face à la question des autres, il vaut parfois simplement la peine de dire qui on est, d'où l'on vient et qui on craint, un peu à la manière de ce que j'avais fait au 8e siècle avant notre ère. Pas parce que notre histoire est extraordinaire, on peut être en fuite nous-mêmes. La mienne d'histoire n'était pas extraordinaire, mais parce que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde, aujourd'hui encore. Parce que Dieu cherche des personnes, des marins, qui puissent l'adorer comme les marins l'ont fait dans l'histoire du chapitre 1 de Jonas. Alors j'aimerais nous souhaiter que le Seigneur vienne nous équiper, à nous, nous qui ne sommes pas marins, nous équiper pour nous aider dans notre témoignage au quotidien auprès des marins qui nous entourent, auprès de ces marins qui adorent d'autres dieux. Parce que ces marins-là qui nous entourent en ont besoin, mais parce que nous aussi, en fait, nous en avons besoin. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous présenter devant toi. Nous avons prié avant la prédication de venir nous rejoindre, de venir nous visiter. Seigneur, nous avons besoin de grandir dans la manière dont nous sommes au monde, dont nous sommes prophètes au milieu de ce monde. Seigneur, donne-nous d'avoir des mots, d'avoir tout d'abord une écoute, l'écoute nécessaire pour entendre les questions des marins dans notre monde. Donne-nous aussi de pouvoir dire tout simplement qui nous sommes, d'où nous venons, quelle est notre activité. Donne-nous d'avoir un témoignage décomplexé et de pouvoir dire tout simplement ce qui nous anime au fond et notre amour pour toi, ce que tu as fait dans ce monde, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, cette grande œuvre de salut. Alors que nous ne méritions rien, tu es venu pour nous, pour nous offrir la vie, pour aussi nous accompagner dans cette grande tempête qui fait rage dans le monde, et de nous accompagner dans cette tempête. Merci parce que tu viens dans les grandes tempêtes de notre vie, de notre existence, et nous pouvons jour après jour tourner nos regards vers toi, confiant que tu es à nos côtés, que tu es dans la barque à nos côtés. Merci Seigneur pour cette assurance et je te prie de renouveler en nous le zèle, le désir aussi de pouvoir témoigner autour de nous que tu es ce grand Dieu qui est à nos côtés dans la tempête. Amen.
Merci Anthony. Je vous propose de prendre un temps de silence pour laisser les choses que nous avons entendues se déposer dans nos cœurs, dans nos têtes, et peut-être aussi répondre à Dieu. Nous avons entendu des choses, j'espère que vous avez été interpellés ce matin d'une manière ou d'une autre. Eh bien, sentez-vous libre aussi, soit de répondre à Dieu dans votre cœur, ou alors si vous voulez aussi le faire à haute voix, on peut prendre ce temps maintenant pour le faire.
Seigneur, je ne veux pas me lasser de m'émerveiller de ce que tu t'es révélé à moi quand j'étais au plus profond, quand j'étais le plus loin de toi. Et tu n'as pas résisté à vouloir me rencontrer. Et Seigneur, c'est cet amour si grand, cette grâce si merveilleuse, je te demande que tu me donnes la capacité de savoir en parler à ceux qui m'entourent, de savoir qu'ils ne seront jamais trop loin de toi pour que tu les rencontres. Alors Seigneur, j'ai tant besoin de toi, de ton Saint-Esprit, pour que tu me guides et que nous puissions continuer d'annoncer ta grâce, ton salut, dans le précieux nom de Jésus, je prie. Amen.
Amen.
Oui, Père, merci parce que tu nous donnes des opportunités, que ce soit dans nos fuites ou dans notre quotidien, et des opportunités de pouvoir te rencontrer, de pouvoir partager notre foi, sans Seigneur que ce soit artificiel, mais tout naturellement. Seigneur, nous voulons saisir ces opportunités, ne pas être audacieux. Seigneur, pouvoir partager l'amour que tu as pour chacun d'eux aussi, chacun pour nous-mêmes et pour aussi chacun d'eux. Chaque personne, Seigneur, que tu désires rencontrer. Alors, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, avec ton Esprit Saint. Seigneur, nous soyons audacieux. Amen.
Amen.
Seigneur, que sont toutes les idoles de ce monde par rapport à toi, par rapport au Dieu qui a créé la terre et la mer. Donne-nous de t'adorer
et de nous tourner vers toi, et d'être un témoignage lumineux pour toi par ton esprit. Amen.
Merci Seigneur pour toutes les tempêtes apaisées dans ma vie. Et surtout quand je suis dans le désespoir, pouvoir te dire je ne suis pas seul, tu es là, et c'est toi qui vas calmer cette tempête. Merci pour ce message, merci Seigneur de nous aider à nous remettre en question dans nos tempêtes. Je ne veux pas s'épouvanter, mais au contraire, savoir que tu es là et tu as tout pour nous. Et tu utilises cette tempête aussi pour qu'on puisse être ce que tu veux que nous soyons. Merci pour Jonas, merci pour sa rétention, mais aussi son courage de pouvoir témoigner. Nous te bénis pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole merveilleuse qui nous parle encore aujourd'hui. Amen.
Amen.
Face à toutes ces tempêtes, Seigneur, qui nous entourent, qui sont dans notre monde, et tous les pourquoi qui nous sont posés, comme Jonas, nous avons tendance parfois à aller au fond du bateau et nous endormir. Donne-moi, Seigneur, donne-nous peut-être cette audace, afin de, avant qu'on nous jette à la flotte, que nous nous jetions à l'eau pour toi, et que notre témoignage d'église, de chrétiens individuels, puisse aussi apporter quelques éléments de réponse aux questions que nos concitoyens se posent. Aide-nous, Seigneur. Amen.
Amen.
L'histoire de Jonas montre un Dieu miséricordieux. Donc l'histoire de Jonas nous montre un Dieu miséricordieux qui pardonne à Jonas, qu'il pardonne aussi aux pêcheurs de la ville de Ninive après qu'ils se soient repentis. Nous chantons Dieu Sauveur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte Dieu, Yeshua, Dieu Sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte Dieu, Yeshua, Dieu Sauveur. Nos voix unies à
scène des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur.
Maintenant de prendre une offrande et puis chanter un autre chant. Est-ce que je pourrais avoir deux ou trois personnes pour m'aider avec l'offrande? Merci d'avance. Nous ne faisons pas des offrandes pour apaiser un Dieu en colère, comme c'était le cas dans l'histoire, heureusement. Nous le faisons parce que notre Église vit de vos offrandes, de nos offrandes. Si vous êtes en visite parmi nous aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, sachez que c'est vraiment un moment qui est libre, donc sentez-vous libre de donner ou pas. C'est aussi un signe d'adoration à notre Dieu. Nous lui donnons aussi un peu de notre argent pour lui dire que cela aussi lui appartient, tout comme le reste de notre vie. Tout lui appartient. Et en donnant un peu de notre argent, eh bien nous disons, voilà, je ne veux pas être attaché à cet argent, mais je le donne aussi en partie à ce Dieu, le Dieu de la vie, sans qui je ne serais rien. Merci d'avance pour votre générosité et puis nous allons chanter Entre tes mains, j'abandonne.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Tout Seigneur, oui,
connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur.
Prends mon corps.
Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur.
Voilà, nous arrivons gentiment au terme de ce culte. Chant défiant, hein, on en a déjà parlé à d'autres occasions. Le genre de chant qu'on chante en se disant « Est-ce que vraiment je peux chanter ça ?»« Je te donne tout, Seigneur. »« Prends tout, Seigneur. » Jonas aussi hein, a bataillé avec ça. Dieu lui demandait tout. Il lui demandait là d'aller à Ninive. Et puis il y a eu une résistance. Et nous aussi, dans nos vies, nous avons des résistances. Et quand nous chantons cela, nous chantons à la fois... Oui, je te donne tout, mais aussi, Seigneur, aide-moi à te donner tout parce que j'y arrive pas toujours. Hein, et donc, on sait que c'est défiant. Je suis défié tous les jours de ma vie avec cela. C'est normal si vous l'êtes aussi. Mais que cela ne nous empêche pas de dire, je te donne tout, Seigneur. Je veux tout te donner, Seigneur. Car nous savons que c'est sa volonté. Et nous savons que comme un bon père sait ce qui est bon pour ses enfants, Dieu sait ce qui est bon pour nous aussi. Je vais prier pour terminer ce culte. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi chaque jour, chaque instant. Dans les défis qui sont les nôtres, nous voulons, comme nous venons de le chanter, te dire que oui, tu peux tout prendre, que notre corps, que notre âme, que notre cœur, que toutes nos pensées t'appartiennent. Nous savons que c'est souvent pas encore le cas. En tout cas, pas tout à fait. C'est une bataille de tous les jours. Et Seigneur, c'est vrai, des fois tu envoies aussi des tempêtes dans nos vies pour nous rappeler à l'ordre, comme tu l'as fait dans la vie de Jonas. Mais Seigneur, que nous n'attendions pas les tempêtes pour te suivre, pour t'obéir, pour mettre nos vies en règle devant toi et pour t'offrir nos vies comme un sacrifice qui t'est dû. Je prie pour chacun de nous, pour cette semaine qu'il a devant nous. Merci de nous accompagner dans nos activités, dans les joies, dans les peines, dans la maladie. Merci parce que tu es là avec nous. Que ta présence soit manifeste et que tu continues à faire pousser les bonnes choses qui sont plantées dans nos vies régulièrement. Que tu continues à nous enseigner ta parole, ta volonté. Que tu bénisses, que tu guérisses. Et que tu nous encourages aussi en tant que témoin, comme on l'a vu. Si Jonas n'avait pas était là sur ce bateau, ces marins n'auraient pas pu peut-être expérimenter ce qu'ils ont expérimenté avec toi. Alors sachons aussi dans nos vies, ouvrir les yeux sur nos circonstances, sur les gens qui sont là autour de nous, pour être des témoins, là où tu nous places. Merci de bénir chacun pour cette semaine. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin. Bon dimanche à chacun, à chacune. Tout à l'heure, il y a le repas communautaire. Donc, que vous ayez amené quelque chose ou pas, soyez les bienvenus. Vous pouvez soit aller vite chercher encore un truc, ou alors souvent, il y a bien assez. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour partager ce repas en commun, faire connaissance encore les uns avec les autres. Merci encore, Anthony, pour ce que tu as partagé. Et puis, Anthony sera disponible aussi si vous avez des questions, soit sur la FLTE ou si vous voulez simplement discuter de ce qui a été partagé aujourd'hui. Pour dimanche.